C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Si vous nous rejoignez, nous sommes avec le climatologue Jean Jouzel et l'économiste Pierre Larouturoux aujourd'hui, car ils ont lancé un appel pour un pacte finance climat européen, appel déjà signé par 13 000 Européens, mais ce n'est qu'un début. Partant du principe que nous n'avons plus que 2 ans pour agir, ils demandent aux chefs d'État et de gouvernements européens d'investir 1 000 milliards d'euros pour le climat, ce qui permettrait de diviser les émissions de gaz à effet de serre par 4, de dégonfler la bulle financière et de créer plus de 5 millions d'emplois. Alors Pierre Larouturoux, l'objectif c'est de finalement financer la transition écologique et plus particulièrement la transition énergétique de l'Union européenne.
Oui, si on veut éviter une catastrophe climatique, il faut, Jean l'a dit, diviser par 4 notre production de gaz à effet de serre. Et c'est possible si en même temps on consomme moins d'énergie. C'est-à-dire qu'on ne prend pas sa voiture tous les jours, on ne laisse pas les fenêtres ouvertes en hiver, on mange moins souvent de viande. Enfin voilà, donc si on a une certaine sobriété, et si quand on a besoin d'énergie, parce qu'on a quand même besoin de transport, on a quand même besoin de se chauffer de temps en temps, on a besoin quand même de vêtements neufs, quand on a besoin d'énergie, c'est une énergie décarbonée. L'objectif est de laisser sous terre la quasi-totalité du charbon, du pétrole et du gaz, et d'avoir des énergies renouvelables. On a dit que l'Europe a déjà été capable de ce genre de chantier. Il y a quelques minutes, on disait quand la France et l'Allemagne ont décidé de mettre ensemble le charbon et l'acier. C'était énorme et on l'a fait en quelques mois. De même, quand Kennedy dit qu'on va aller sur la Lune, il y en a qui pensent qu'il a pris un coup de soleil. Mais non, 7 ans plus tard, on va sur la Lune. Donc si on a cette ambition, c'est tout à fait possible. La question est de savoir comment le financer. Et donc là, on s'appuie sur un rapport de la Cour des comptes européenne qui dit « il n'est pas trop tard, mais il faudrait chaque année à peu près 1100 milliards ». C'est la Cour des comptes européenne qui dit sur l'ensemble de l'Europe, il faudrait chaque année, investissement public et privé, 1100 milliards.
1100 milliards pour financer la transition énergétique en Europe.
Tout à fait, pour financer en même temps isoler, concrètement, ça veut dire isoler tous les bâtiments publics et privés.
Remplacer les centrales à charbon par des énergies renouvelables.
Exactement, avoir des modèles de transport, avoir aussi un effort de recherche, parce qu'on a besoin de mobilité, il faut plus de mobilité, de transport collectif. Mais on a tous besoin quand même de mobilité personnelle, donc il faut des voitures qui consomment beaucoup moins, il faut stocker. Mais la bonne nouvelle, parmi les gens qui nous soutiennent, il y a Michel Spirou, l'ancien patron du CERN. Vous savez, le CERN, c'était ces 10 000 chercheurs qui cherchaient le boson de Higgs, une particule que Einstein avait présupposée, mais que voilà, ils ont été 10 000 à la chercher puis la trouver. Et chemin faisant, ils ont inventé Internet et les écrans tactiles. Et Michel Spirou dit, si on veut prendre au sérieux la question du climat, il y a plein de choses qu'on sait déjà, mais c'est un effort de recherche qui peut être fabuleux. Donc, je finis là-dessus. Il y a 5 ans, déjà, avec Jean Jouzel, avec Michel Rocard, avec Stéphane Hessel, on disait la question du climat est fondamentale. Et on faisait un parallèle avec 2008. On disait, en 2008, pour sauver les banques, on a mis 1 000 milliards. Il faudrait mettre 1 000 milliards pour sauver le climat. Et certains disaient, ouais, super. Et d'autres disaient, mais non, c'est pas possible. 1 000 milliards, les Allemands ne voudront pas. La Banque centrale ne voudra pas. Et ce qu'on raconte dans ce livre, c'est comment il y a 3 ans, un énorme tabou est tombé. Et tout d'un coup, la Banque centrale européenne dit, je vais créer 1 000 milliards. Et qu'au total, la BCE, la Banque centrale européenne, a créé 2 500 milliards en 2 ans et demi. Donc ça tombe bien, 2 500 milliards créés en 2 ans et demi, ça veut dire que la Banque centrale crée à peu près chaque année 1 000 milliards. Ça tombe bien, c'est le chiffre que la Cour des comptes indique pour rattraper le retard en matière...
Alors on n'aura pas le temps de faire un cours d'économie pour tous les auditeurs et expliquer comment la Banque centrale européenne crée des milliards. C'est vrai que c'est un petit peu complexe à comprendre.
On fait tout pour faire croire que c'est complexe et que les citoyens se détournent, mais on montre dans ce livre que c'est très simple. Autrefois on appelait ça la planche à billets. Quand vous et moi on était petits, il y avait une planche physiquement, tandis que maintenant c'est un ordinateur. Mario Draghi dit « je vais de créer 233 milliards et en un jour, le mois de mars dernier, en une journée, 233 milliards créés à partir de rien et prêtés à taux négatif aux banques.
Donc, mais la question, c'est où va cet argent aujourd'hui?
Et on montre qu'il y a seulement 11% qui est allé dans l'économie réelle et 89% qui va à la spéculation. L'autre jour, dans une autre émission, RFI parlait de Davos où Christine Lagarde a dit « attention, on risque une crise financière plus grave, plus rapide, plus générale qu'en 2008 ». On nous a appris à l'école qu'on était des homo sapiens sapiens, la branche la plus évoluée des mammifères, mais on se demande si on est des sapiens sapiens ou des débilus débilus. Parce qu'on nous avait dit qu'il n'y avait pas d'argent, en fait on découvre qu'il y a eu 2 500 milliards créés, cet argent existe, et il va au pire endroit. Il va à la spéculation. Donc, est-ce qu'on est vraiment assez bête pour comme des lapins qui voient le camion arriver? Le FMI nous dit, on va avoir une crise financière dramatique. Le GIEC nous dit, on n'a plus que 3 ans pour agir. Et si on ne change pas de politique, on va se payer et la crise financière, chômage de masse, populisme et le chaos climatique. Donc, ce qu'on propose avec Jean, avec 150 autres personnalités, avec plusieurs milliers d'Européens, c'est de dire, on arrête les blagues, on refuse le chaos et on veut un traité européen qui dit l'argent de la Banque centrale, au lieu d'aller à la spéculation, il va financer la transition, il va créer des emplois partout, sur tous nos territoires, en France, en Italie, au Portugal. On aura les moyens de financer la transition et ça peut être une bonne nouvelle.
Et vous n'êtes pas les seuls à dire que ça va créer des emplois, puisqu'en France, 10 syndicats et associations françaises ont lancé une plateforme qui s'appelle 1 million d'emplois pour le climat. Une idée que nous explique Julien Rivoire de la FSU, la Fédération syndicale unitaire.
Cette idée, elle vient aussi d'ailleurs, d'autres mouvements à l'international, notamment en Angleterre, puisque depuis 2007, une campagne 1 million climate jobs existe, qui réunit, comme la nôtre, des syndicats et des associations environnementales ou des associations altermondialistes. On s'est dit surtout comment on affronte cette double crise, une crise massive du chômage depuis des années qui taraude notre société, qui détruit des vies y compris, une crise climatique, une crise environnementale dont on n'arrête pas de voir les conséquences, et cette difficulté qu'on rencontre à lier les deux.
Vous annoncez donc 1 million d'emplois climatiques en France à l'horizon 2020. Comment vous avez obtenu ce chiffre d'1 million?
Alors, on s'est basé sur un certain nombre d'études qui existent. Le 1 million d'emplois, c'est 1 million d'emplois nets. C'est-à-dire qu'on prend en compte la destruction aussi d'emplois qui seront liés à la transition, puisque effectivement des secteurs sont amenés à disparaître.
Donc les secteurs de l'énergie fossile principalement.
L'énergie fossile par exemple, notamment, avec de l'ordre de 400 à 500 000 disparitions d'emplois. Donc ça veut dire qu'il faut créer plus d'emplois.
1,5 million.
1,5 million à peu près. Ensuite, on prend en compte les emplois qui devront être créés dans de nouveaux secteurs, ou en tout cas des secteurs liés traditionnellement auxquels on pense quand on pense transition, les énergies renouvelables, mais également d'autres emplois auxquels on pense moins. On a besoin de formation, on a besoin donc de formateurs dans la formation professionnelle tout au long de la vie. On a besoin aussi de renforcer la formation initiale. On a besoin aussi d'animateurs, par exemple, qui vont permettre de soutenir, d'accompagner des initiatives locales. Parce que la transition, elle ne se passera pas que par en haut. Elle va aussi être irriguée par de multiples initiatives locales.
Julien Rivoire, interrogé par Alice Milot. 1 million d'emplois rien qu'en France, Jean Jouzel?
Oui, ce sont les mêmes chiffres que ceux de l'ADEME, par exemple, qui a publié récemment
l'Agence française de la maîtrise de l'énergie.
L'énergie, qui parle de 900 000 emplois créés liés à la, disons, au succès de la transition énergétique. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt de plus en plus, nous en parlions avec Pierre, des syndicats français et européens d'ailleurs, vis-à-vis de ces problèmes de réchauffement climatique et de la façon de s'y investir.
Alors 1 million d'emplois dans un pays qui a 4 millions de chômeurs comme la France, c'est quand même une bonne nouvelle. Et à l'échelle de l'Europe, c'est évidemment beaucoup plus de création d'emplois, Pierre Laroutou.
Oui, c'est à peu près proportionnel. Les problèmes ne sont pas exactement les mêmes. En Allemagne ou en Pologne, le problème ce sera surtout de sortir du charbon, alors que nous on a une... Voilà. Mais partout, il y a un besoin d'efficacité, partout, la question du logement, les logements où on habite, les mairies, les gymnases, tous les bâtiments publics et privés, les usines. Donc c'est un des secteurs qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, c'est tout le logement. Et donc notre objectif, c'est avec le pacte qu'on propose au niveau européen, de pouvoir montrer comment on divise par deux la facture. Si dans l'immeuble où vous habitez, vous devez faire 30 000 euros de travaux, on pourra vous dire, bonne nouvelle, la France et l'Europe payent la moitié, 15 000. Et le reste, les 15 000, vous le financez par des prêts à taux zéro. Et si vous êtes un peu raisonnable et si vous n'ouvrez pas les fenêtres l'hiver, vous allez réellement faire des économies sur dépenses de chauffage et donc vous allez rembourser tranquillou vos prêts à taux zéro pendant 15 ou 20 ans. Donc on montre comment, si on met en place un vrai budget européen, donc il y a l'idée qu'on vient de développer de l'argent qui était à la Banque Centrale Européenne et qui va à la spéculation, on veut le remettre cet argent dans l'économie réelle. Et puis il y a besoin d'un vrai budget. Si on veut vraiment aider l'Afrique, si on veut vraiment avoir une politique de recherche, si on veut que chacun de nous reçoive un chèque pour payer une partie des travaux, il y a besoin d'un budget. De même qu'il y a un budget pour l'éducation, il y a un budget pour la défense, on veut qu'il y ait un budget du climat au niveau européen. Il faut 100 milliards chaque année. Comment le trouver ? Sans augmenter les impôts sur les personnes, parce que vous et moi, on n'a peut-être pas envie d'augmenter nos impôts. Voilà. Donc on montre dans le livre comment il y a eu un dumping terrible et comment, depuis que l'Angleterre est rentrée, l'impôt sur les bénéfices s'est effondré en Europe. C'est incroyable de se dire qu'aujourd'hui, En Europe, l'impôt sur les bénéfices est à 20% en moyenne.
Donc sur les bénéfices des entreprises.
Les bénéfices des entreprises, alors qu'aux États-Unis, jusqu'à Trump, il était presque à 40%. L'Europe taxe deux fois
moins. Donc vous
dites
qu'il faut taxer plus les entreprises.
Il faut donner 5%
de plus.
Non pas un impôt sur les personnes, ni sur les entreprises, mais sur les bénéfices non réinvestis. C'est-à-dire... C'est important de préciser, ce n'est pas un impôt sur les personnes, ce n'est pas une cotisation sociale qui va alourdir le coût du travail, ce n'est pas un impôt sur les entreprises, c'est sur les bénéfices non réinvestis, ceux qui partent vers les marchés financiers. Et si on prenait ne serait-ce que 5% sur les bénéfices non réinvestis, ça fait chaque année 100 milliards. Et donc on a, par exemple, 40 milliards pour l'Afrique, 10 milliards pour la recherche et 50 milliards d'euros disponibles chaque année pour financer les travaux. Et du coup, on peut rendre obligatoire et se dire que dans 20 ans, notre objectif, c'est vraiment d'accélérer, de se dire que dans 20 ans, tous les bâtiments publics et privés doivent avoir été isolés. Que dans 20 ans, tous les paysans, on aura aidé les paysans à changer de modèle agricole. Jean disait qu'il fallait essayer de stocker le CO2. Eh bien, on peut avoir en quelques années une agriculture qui, au lieu de produire du CO2 et des gaz azotés, stocke. Mais il faut quelques années pour que retrouver la vie du sol et que le sol va devenir un élément de stockage du CO2.
Et c'est même un devoir moral pour l'Union européenne. Elle doit donner l'exemple puisque nous sommes largement responsables de ce changement climatique. Et c'est difficile de demander aux pays en développement de faire des efforts si nous n'en faisons pas nous-mêmes. Jean Jouzel ?
Oui, mais il faut... Oui, alors, effectivement, l'Europe, ça correspond actuellement à 10% des émissions. Mais si on regarde les émissions historiques, celles qui ont été émises depuis 200 ans, évidemment, l'Europe tient un plus gros pourcentage comme les pays développés. Je crois que c'est à... L'Europe, c'est la bonne taille pour faire quelque chose, pour, disons, entraîner l'économie mondiale, parce qu'il faut servir de modèle. L'idée, c'est que si l'Europe réussit, eh bien, la Chine s'est engagée également, d'une certaine façon, dans la transition, de façon relativement lente, puisque de nouveau, ses émissions ont augmenté en 2017. Malheureusement, les États-Unis, il y a, disons, certains États, mais au niveau fédéral, certains États qui s'y engagent, mais au niveau fédéral, ce n'est pas terrible, mais l'Europe a un rôle à jouer. C'est vraiment aussi... bien sûr, par rapport aux pays en voie de développement. Je crois que il faut quand même que les pays en voie de développement, on va surtout parler de l'Afrique, se développent, bien sûr, mais sur un modèle différent de celui sur lequel nous nous sommes construits au cours des 50 dernières années. Il faut absolument que les énergies renouvelables, en particulier, prennent une place de plus en plus importante en Afrique. Et il faut les aider. C'est ça aussi, ça fait aussi partie. Il y a quand même une proximité entre l'Europe et l'Afrique qui est bien là. Et je crois que l'Afrique est un continent frère de l'Europe et nous avons intérêt à investir en Afrique dans ces domaines, en particulier pour les aider à se développer de façon sobre et oui, à participer ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique.
Et c'est une nécessité parce que la consommation de charbon est repartie à la hausse en 2017, portée par la Chine et l'Inde. Et même le Maroc, champion annoncé pourtant des énergies renouvelables sur le continent africain, construit lui aussi des usines de charbon. Bonjour Sarah Doublié.
Bonjour.
Depuis 2013, un gigantesque projet de centrale thermique alimentée au charbon est en préparation. Je dois avouer que vous, comme moi d'ailleurs, nous étions assez surprises de découvrir cela. Ça a été bien caché sous le tapis. Alors que sait-on de ce projet ?
Eh bien, il s'agit d'un complexe thermique qui doit être installé aux abords du port de Safi, sur le littoral atlantique, construit et exploité par un consortium composé des groupes Daewoo, Engie et Nareva, pour une firme marocaine. Elle doit ouvrir en mars prochain et vise à couvrir à terme un quart de la demande nationale en électricité. Cette centrale à charbon, dernier cri, d'une capacité de 1386 MW, insiste sur son caractère propre, avec des dispositifs destinés à limiter son impact environnemental, récupération des cendres volantes et lourdes et des systèmes de filtre des rejets atmosphériques. Il faut noter que ce n'est pas le seul projet en cours. Des extensions de centrales dans le nord-est du pays ont été réalisées récemment, mais aussi sur le littoral atlantique. Un autre méga-projet de station thermique à charbon, 2300 MW, est aussi prévu à Nador, dans le nord, à l'horizon 2023.
Le Maroc est donc loin d'avoir abandonné les énergies fossiles.
Oui, d'ailleurs, sa part d'électricité produite à partir du charbon a même bondi ces quatre dernières années. La part de marché a atteint un pic de 49% en 2015 et selon les prévisions de l'Office marocain de l'électricité, elle devrait toutefois baisser à 21% en 2030.
Alors le Maroc qui a accueilli la 22e conférence des Nations Unies sur le climat, c'était en 2016 et pourtant régulièrement encensé pour son ambitieuse stratégie en matière de développement des énergies renouvelables. Alors pourquoi mise-t-il encore sur le charbon ?
Eh bien, tout simplement pour des raisons économiques. Tout d'abord, l'importation du charbon reste compétitive au regard des produits pétroliers et pays en développement. Eh bien, le Maroc doit aussi faire face à une hausse exponentielle de sa demande en électricité, plus 6% chaque année. Il s'agit là donc de sécuriser son apport en énergie par la diversification pour faire face au pic de consommation à venir avec son corollaire. Une facture énergétique conséquente. Le Royaume s'approvisionne essentiellement auprès des États-Unis, près de 60%, mais aussi de la Russie, de l'Afrique du Sud et de la Pologne. L'année dernière, la facture énergétique avait bondi de plus de 11 milliards de dirhams, soit environ 1 milliard d'euros.
Et le Maroc connaît des turbulences sociales dans les anciens bassins miniers à Djerada, dans le nord-est du pays. Peut-il aujourd'hui rouvrir des mines et devenir un nouveau producteur de charbon ?
Alors il y a peu de chances pour que de grands bassins miniers soient à nouveau ouverts au Maroc. Les charbonnages du Maroc ont cessé leur grande activité minière à Djerada il y a près de 20 ans, et cela faute de rentabilité. Le ministre de l'énergie marocain l'avouait d'ailleurs dernièrement, l'extraction du charbon ne fait pas rêver les investisseurs, mais l'extraction clandestine, elle, s'est poursuivie ces deux dernières décennies. Les accidents mortels à répétition, 18 selon un dernier décompte, dans les puits creusés de manière informelle, eh bien, se sont multipliés. Ils ont provoqué un mouvement de contestation populaire qui dure depuis 2 mois dans l'ancienne ville minière de Djerada. Et pour calmer les esprits, quelques centaines d'emplois ont été promis aux habitants dans la toute nouvelle centrale thermique construite dans la ville. Mais elle fonctionnera cette fois avec du charbon importé.
Merci Sarah Doulier, correspondante de RFI au Maroc.
R. Je disais que F. Il fait trop chaud ici.
Pour nous écrire, c'est pas du vent. @rfi.fr
sur RFI. Nous sommes en compagnie du climatologue Jean Jouzel et de l'économiste Pierre Larouturoux aujourd'hui, car ils ont lancé un appel pour un pacte finance-climat européen pour, je cite, que 2018 soit l'année d'un sursaut collectif et que 2019, le paquet de ce pacte soit adopté. Alors, vous en êtes où, messieurs, dans la mobilisation? Est-ce que vous avez l'oreille depuis, je crois, le 7 décembre 2017?
Voilà, ça fait 2 mois qu'on a lancé cette initiative. Dès le début, il y avait des gens très différents qui avaient signé. On avait aussi bien le prince Albert de Monaco que Manuela Carmena, la maire de Madrid, qui était élue avec Podemos. On avait des chefs d'entreprise et des syndicalistes, des mouvements comme Alternativa et puis des dirigeants européens. Le président de tous les syndicats européens est très motivé. Au niveau européen, ça bouge un peu, puisque à Bruxelles, nous avons été auditionnés, Jean et moi, en présence du commissaire européen chargé du climat, M. Cagnetti, devant 350 dirigeants venus de toute l'Europe. C'était assez émouvant. Et ça y est, cette semaine, le comité économique et social a voté pour se saisir de notre projet. Et donc, à l'initiative du président de tous les syndicats européens, Rudy Deleuve, qui dit il n'y aura pas de salariés heureux, il n'y aura pas de lutte contre le chômage et la planète s'effondre. Et c'est l'occasion de créer massivement des emplois de qualité. Donc l'ensemble des syndicats européens se mobilisent. Et à l'initiative de Rudy Deleuve, il y a eu un vote. Le groupe des chefs d'entreprise s'est divisé, mais il y a aussi des patrons qui ont voté pour. Et donc ça y est, le comité économique se donne 2 mois ou 3 mois pour rendre un avis sur notre projet qui obligera la Commission européenne à se positionner. Et puis cette semaine aussi, on a été reçus pour la 4e fois à l'Élysée. Donc on ne peut pas rendre publiques les discussions. Mais le fait qu'on soit reçus pour la 4e fois montre sans doute qu'il y a un intérêt. Ils ont des journées bien remplies. Ils ne nous recevraient pas 4 fois de suite dans quelques semaines. Donc nous, notre objectif politique, et chacun et chacune de ceux qui nous écoutent peut nous aider. Vous pouvez aller sur le site internet climat-2020.eu, EU comme Europe, climat-2020.eu. On a eu des échanges avec des amis à Berlin, des deux côtés, aussi bien du côté de Mme Merkel que du côté socialiste. Il y en a qui pensent que l'Europe va mourir si elle n'a pas un nouveau projet et que c'est l'occasion. Donc ce qui nous rend optimistes, c'est que aussi bien Mme Merkel que M. Macron veulent un sursaut de l'Europe et que le calendrier, c'est cette année. Il y aura la COP24 en Pologne début décembre. De nouveau, tout le monde va dire la planète brûle, la planète brûle. Et 2 semaines après, à Bruxelles, il y aura les chefs d'État européens qui doivent décider des nouveaux traités. Donc soyons le plus nombreux possible, chacun de nous, où qu'il habite, en France ou ailleurs, peut se mobiliser.
Il n'y a pas besoin d'être européen pour...
Non, il faut qu'on fasse pression. Nous, on va convaincre. On va aller à Berlin, on va à Bruxelles, on va voir les chefs d'État et les députés pour leur dire oui, c'est possible, mais il faut qu'il y ait une pression populaire. Donc on demande à tous ceux qui le veulent d'aller sur le site climat-2020.eu.
Vous y croyez, Jean-Jouzel ?
Oui, Pierre est très engagé. Moi, je suis plus du côté de la communauté scientifique. La communauté scientifique est très claire. Il va y avoir un nouveau rapport du GIEC sur la possibilité ou non de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 1,5, parce que beaucoup de pays, disons, sont mécontents par cet objectif de 2 degrés, et on en est loin, parce qu'ils pensent qu'il y a plus de risques encore, les petites îles, par exemple, ou les pays côtiers de l'océan Pacifique et de l'océan Indien. Donc il y a beaucoup de motivation aussi au niveau de la communauté scientifique, mais c'est vrai que c'est avant tout, ce sont des décisions politiques et surtout des décisions citoyennes, par exemple, et disons, il va y avoir aussi, disons, un grand mouvement. Je prends au niveau des initiatives citoyennes en France au cours des prochains mois. Je crois que c'est très important que ce thème du climat
soit
bien présent et je crois que nous y serons, bien sûr.
Alors nous parlons beaucoup de la lutte contre les changements climatiques aujourd'hui, évidemment, dans C'est pas du vent en général, comme dans la plupart des médias d'ailleurs, mais nous refusons de faire grossir les statistiques qui sont en défaveur d'un autre combat, celui contre la perte de la biodiversité. Bonjour Pierre Lagagneux.
Oui, bonjour.
Vous êtes écologiste du comportement, c'est-à-dire que vous étudiez le comportement des gens, c'est ça ?
Non, le comportement des animaux principalement, des canards et des oies.
Mais les gens sont des animaux aussi. Hein. Alors avec le Centre d'études biologiques de Chizé et l'Université du Québec, vous venez de publier une étude sur le sous-traitement médiatique de la crise de la biodiversité et c'est assez édifiant.
Oui, alors ce qu'on a fait, c'est une initiative avec... l'Université du Québec à Rimouski, l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, et puis maintenant, moi, je suis en poste à Chizé. Et ce qu'on a fait, c'était essayer de regarder un peu comment le traitement médiatique était fait de deux enjeux environnementaux que sont le changement climatique et la biodiversité. Et puis, on s'est rendu compte, en épluchant les bases de données, que jusqu'en 2002, en fait, le traitement médiatique est similaire, il est faible, mais il est similaire. Et à partir de 2002-2003, il y a un emballement médiatique pour les changements climatiques qui ne s'arrête pas, et maintenant, on a un traitement médiatique qui est 8 fois supérieur pour les changements climatiques comparé à la biodiversité. Alors qu'on a à peu près la même qualité scientifique, même production scientifique, et même, pas égal, mais c'est proche, aussi pour le financement de la recherche.
8 fois plus, on parle 8 fois plus du climat que de la crise de la biodiversité. Alors vous proposez différentes pistes de réflexion pour que les travaux scientifiques liés à cette perte de biodiversité soient davantage relayés par les médias. Alors donnez-nous-en quelques-unes.
Alors, la principale que je dirais, c'est que si il y a eu un emballement médiatique pour les changements climatiques, donc c'est lié à 2 choses, c'est lié à la parution notamment des rapports du GIEC, et puis l'autre chose, c'est on pouvait s'approprier ça à travers une personne médiatique qui était Al Gore et son film Une vérité qui dérange. Donc ça a été quelque chose qui a permis cet emballement-là. Donc cette personne médiatique pour la biodiversité, alors on a en France une personne comme Gilles Boeuf qui le fait, mais au niveau international, on a peut-être pas personne à part le pape qui a mis sur le même plan les pertes de biodiversité et changement climatique, mais sinon on n'a pas cette personne médiatique.
Donc on cherche un champion qui incarne la perte de la biodiversité au niveau mondial. Voilà, l'avis est lancé en tout cas sur RFI, peut-être que quelqu'un va se manifester. Non mais je suis un peu ironique, mais vous avez bien entendu raison. Et puis mais j'imagine qu'il faut faire preuve de beaucoup plus de pédagogie sur ces enjeux. Qu'est-ce que vous suggérez d'autre ?
Oui, alors tout à fait. Effectivement, il y a un engouement pour les sciences citoyennes en ce qui concerne la biodiversité. Donc, tout ce qui est biologie, sauver les abeilles, les oiseaux, etc. C'est un engouement énorme chez les jeunes. Il y a différents programmes de sciences citoyennes qui sont très populaires là-dessus, qui permettent d'alimenter des bases de données, d'avoir une compréhension assez fine des changements de la biodiversité. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place. C'est des initiatives locales. Et la chose qu'on devrait aussi essayer de communiquer un peu mieux, c'est le fait que la perte de biodiversité, c'est quelque chose de global, et le fait de boire du café à un endroit va avoir des impacts sur une espèce à l'autre bout du monde.
Et nous sommes étroitement dépendants de cette biodiversité, on le répète régulièrement dans cette émission. Merci Pierre Le Gagneux. Jean Jouzel, alors pourquoi pas un pacte finance-climat-biodiversité ?
Oui, c'est vrai que, bon d'abord c'est tout à fait justifié, je crois que les chiffres sont tout à fait exacts. L'analyse qui est que le climat a bénéficié de la visibilité donnée par les rapports du GIEC doit être exacte, je pense, enfin pour l'avoir vécu de l'intérieur depuis une vingtaine d'années. C'est vrai que du côté biodiversité, il y a eu un certain retard à la mise en place de ce qu'on appelle la plateforme biodiversité, l'IPBES, mais du point de vue des conséquences, c'est clair que la perte de biodiversité est tout aussi importante. La perte de biodiversité risque elle-même d'être exacerbée par un réchauffement climatique s'il est important. Certaines espèces, leur capacité de déplacement est inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Il y a un lien entre les deux, mais il faut effectivement que la biodiversité prenne plus de place, je crois, c'est important, et disons, on essaye d'en parler. On a par exemple une tribune récente avec Dominique Bourg sur l'importance de la biodiversité.
Voilà, et donc il faut défendre aussi la lutte contre la perte de la biodiversité au niveau européen. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être passés dans C'est pas du vent. On suivra attentivement l'évolution de ce pacte finance-climat.
Climat-2020.eu.
Voilà, on ne fait pas que suivre, on agit, on signe, on se mobilise. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde, et à vous pour votre fidélité. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre application Pure Radio ou sur la page internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.